Ces derniers dimanches, je crois, vont être l'occasion de relever quelques défis. Celui qu'Abdel m'a proposé, c'est de vous lire le chapitre 40 du livre de Job et d'en faire quelque chose. Je vais donc vous lire les 7 premiers versets. L'Éternel reprit la parole et dit à Job : Le discutailleur va-t-il faire un procès au Shaddai ? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réponse à cela ? Job répondit à l'Éternel : Voici, je suis peu de choses. Que te répliquerai-je ? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me feras connaître. Frères et sœurs, poursuivons cette grâce exprimée à l'occasion du baptême par le chant du cantique 204. Avant de nous plonger dans le livre de Job, nous chanterons les deux strophes du cantique 204. Éternel, toi qui, par ton esprit, rassembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la source de notre foi, la fermeté de notre espérance, ce qui guide notre amour. Amen. Le discutailleur va-t-il faire un procès avec Shaddai ? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela ? Chers frères et sœurs, le protestantisme n'a-t-il pas fait fausse route dès le départ ? N'avons-nous pas inscrit dans ce passage biblique l'interdiction même du protestantisme ? Avec cette double question en forme de reproche, c'est l'ADN même du protestantisme qui est remis en cause. Notre capacité à pinailler, notre vocation à être grain de sel, notre appétence pour le débat, notre goût pour en découdre, intellectuellement, spirituellement, notre capacité à attraper l'Éternel par le col et à lui demander quelques comptes. N'avions-nous pas en tête que Dieu était un Dieu du dialogue ? Ici, tout semble nous donner tort. Et le fait même de ne pas être dans les clous, le fait de ne pas suivre gentiment le troupeau et de remettre en question l'ordre établi, semble intolérable. Alors s'il n'est plus possible de discutailler, s'il n'est plus possible de contester ou de protester, n'est-ce pas le moment de se résoudre à fermer la boutique ? Incontestablement, en tout cas, ce passage biblique interroge notre manière d'être, notre façon toute protestante de vivre. Ce texte nous interroge sur des aspects qui méritent effectivement d'être critiqués ou du moins interrogés, à commencer par ce qui nous est souvent reproché, une prétention à savoir, mieux que quiconque, une forme d'arrogance due à un sentiment de supériorité sur les autres croyants. Je pense que personne parmi vous n'a été exempt de ces reproches latents ou explicites. En tout cas, nous y avons droit assez souvent, y compris de la part de protestants. Je ne dis pas que cette remarque est fondée. Je constate qu'elle est souvent faite. Et qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Cela doit nous donner l'occasion de remettre en cause ce que nous donnons à voir, peut-être. Job, pour sa part, subit une remise en cause en bonne et due forme de la part de l'Éternel, ce qui le conduit à ce constat : je suis peu de choses. Et cela le conduit à une nouvelle attitude : je mets ma main devant la bouche. Autrement dit, je fais profil bas. Et je me tais. Je me tais au lieu d'avoir réponse à tout, ou d'avoir toujours quelque chose à dire, ou plus exactement, toujours quelque chose à redire. Cela aussi est constitutif de l'ADN des parpaillots. Nous pourrions comprendre ce texte comme la volonté toute-puissante de Dieu de n'avoir aucun contradicteur, de ne subir aucune remontrance. Et il est vrai que dans notre tradition libérale, les remontrants, c'est quelque chose. Est-ce bien légitime ? Mais ce que dit le personnage Job indique qu'il a découvert sa véritable dimension, aussi bien au sein du monde qu'au regard de Dieu. Il est peu de choses, il n'est pas rien. Il ne s'est pas anéanti devant Dieu. Il prend conscience de sa juste dimension, qui est assez modeste au regard de tout ce qui l'entoure. Je dirais que l'attitude de Job est pleine d'humilité à l'égard de la prétention humaine à vouloir tout savoir. Chapitre 40 du livre de Job, nous sommes dans cette séquence où le personnage biblique prend conscience qu'il sait bien peu de choses, qu'il ignore l'essentiel de l'origine du monde, par exemple, et qu'autour de lui, il y a énormément d'inconnus. La découverte de Job est celle de l'humanité tout entière. C'est qu'à mesure que la science avance dans sa connaissance du monde, eh bien, l'ignorance augmente, elle aussi. Plus nous en savons, plus nous découvrons que nous ignorons encore plus de choses. Au fur et à mesure que nous comprenons des mécanismes de la vie, que nous découvrons le fonctionnement ou de nouvelles propriétés du vivant, des forces qui sont à l'œuvre dans l'univers, nous nous retrouvons face à de nouvelles énigmes, face à de nouveaux défis lancés à notre intelligence. Et cela devrait commencer par provoquer chez nous un peu d'humilité. Cette humilité qui caractérise Job devrait nous inspirer lorsque nous avons quelques prétentions à savoir comment le monde fonctionne exactement. Lorsque nous avons la prétention de pouvoir tout expliquer, autrement dit de tout savoir sur toute chose. Et ce passage biblique va plus loin dans la relativisation de notre savoir, de notre science. Je pourrais formuler la problématique avec cette question. La science nous donne-t-elle accès à la vérité des choses ? La science nous donne-t-elle accès à la vérité des choses ? La science nous offre-t-elle une connaissance directe des choses, des phénomènes, des personnes ? La science atteint-elle le réel ? Ou alors, n'en est-elle qu'une représentation, ce qui n'est déjà pas rien. Force est de constater que les sciences n'ont toujours pas réussi à épuiser leur sujet. Aucune science n'a encore atteint le moment où une théorie unifiée est en mesure de tout expliquer. Le réel continue à échapper. Même aux sciences réputées être les plus dures. La sociologie n'a toujours pas fini son enquête auprès des communautés humaines qui ne cessent de démentir les prédictions et qui ne cessent d'offrir de nouveaux modèles d'organisation et de régulation. Mais la physique, dont on pourrait se dire qu'elle est capable de dire l'alpha et l'oméga, eh bien, la physique, quant à elle, n'a toujours pas fait la jonction entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Alors, quant à la théologie, nous la fréquentons suffisamment pour être passablement humbles en matière de discours sur Dieu et même sur la foi, sur les croyances. Non seulement nous ne sommes pas à la veille du jour où une confession de foi satisfera tous les croyants, mais la théologie laisse même entendre qu'une telle unanimité ne serait pas souhaitable. Peut-être est-ce d'ailleurs l'un des mérites de la théologie en tant que discipline scientifique, c'est de récuser l'unité par l'unification. C'est la raison pour laquelle, je reviens à la question de la foi, il est intéressant de travailler sur une déclaration de foi pour l'Église plutôt qu'une confession de foi qui prétendrait épuiser Dieu au sens de le définir. Les amis de Job avaient la prétention d'avoir épuisé Dieu. Et peut-être nous-mêmes, parfois, avons cette prétention à l'égard des autres croyants ou des incroyants. Funeste projet que de vouloir dire le tout de Dieu. Bref, notre expérience personnelle, un regard sérieux sur ce que les sciences donnent à voir et l'écoute de ce passage biblique concourent à dire qu'il y a toujours un écart entre la science et le réel. Il y a d'ailleurs toujours un écart entre le discours sur Dieu et Dieu lui-même. Et l'analogie n'est pas fortuite de ma part. Cela, je le répète, pourrait nous conduire sérieusement à une attitude d'humilité qui est la seule à pouvoir être véritablement fidèle à la perspective biblique. Ce passage de Job redit les choses à sa manière. Il raille le fait que Job puisse entrer en procès avec Dieu. Alors, nous avons une idée du procès qui est toute judiciaire. Mais le sens du mot procès, le sens du procès, n'est pas d'abord une question judiciaire. Le sens du procès est d'abord lié à la question de l'action. Nous l'entendons par le détour de l'anglais qui donne processus, procédure, des termes qui n'ont pas un usage exclusivement juridique. Le procès, c'est d'abord l'action. Le procès se rapporte à ce que le verbe exprime au sujet ou à propos du sujet. Et cela a été particulièrement mis en évidence dans ce qu'on appelle la sémiotique ou l'analyse structurale. Lorsqu'on étudie un texte, tous les verbes sont appelés des procès. Je prends un exemple dans la Bible. La première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, parle de l'amour. L'apôtre Paul écrit « L'amour endure tout, il croit tout, il espère tout. » Endurer, croire, espérer, ce sont des procès qui disent quelque chose du sujet, l'amour. Je le dis encore avec un terme technique et puis après j'arrête de vous épuiser. Le procès exprime la performance du sujet. Alors je reviens à notre texte de Job. Railler la possibilité pour Job et donc pour l'homme, pour nous-mêmes, de faire procès avec Dieu, c'est l'expression du texte hébreu, la possibilité de faire procès avec Dieu, c'est dire que l'homme et Dieu ne sont pas sur un plan d'égalité en termes de performance. Il y aura toujours un écart parce que l'homme est sujet alors que Dieu est action, procès, process, processus. L'homme ne peut s'assimiler à des actions, au verbe. Seul Dieu le peut. D'ailleurs, Dieu est verbe. Le nom propre de Dieu, dans la perspective biblique, dans sa version hébraïque, est un verbe, le verbe advenir, conjugué à l'inaccompli, ce que nos traductions protestantes restituent par l'éternel. Au commencement, le verbe était auprès de Dieu et le verbe était Dieu. Quoi que ce soit le logos, ce qui n'est pas tout à fait le verbe, mais qui désigne l'action. J'en viens maintenant à la question de l'homme et de l'homme protestant. Que reste-t-il de lui après ce passage biblique? Eh bien, ce passage biblique ne s'acharne pas à déconstruire la valeur de l'être humain. Il s'évertue à le remettre à sa juste place, c'est le travail de l'humilité, à exprimer sa juste condition, et il le fait de manière symbolique. Il va donner à Job sa véritable consistance. Et le conseil de mettre sa ceinture à ses reins est une manière de dire que Job a une consistance, a une personnalité propre. Le fait que Job puisse mettre une ceinture à ses reins indique l'unité de Job, indique que Job est un tout. Si Job peut ceindre ses reins, cela signifie qu'il n'est pas fragmenté, qu'il n'est pas éparpillé façon puzzle. Notre être a une forme d'unité, symbolisée par la ceinture qui dit la possibilité pour celui qui la porte de dire « je ». Nous avons une consistance, nous avons une existence. Nous ne sommes pas une sorte d'émanation. Nous ne sommes pas dissous dans un grand tout. Celui qui porte la ceinture est quelqu'un. Il se distingue, il se repère. On pourrait dire que c'est un homme libre, comme celui qui sort d'Égypte et qui va aussi mettre une ceinture à ses reins, comme Pierre qui sort de prison, qui va aussi mettre une ceinture à ses reins. C'est peut-être même la caractéristique de l'être libre, libre parce qu'il a une existence propre, libre parce qu'il a une propriété privée, lui. Il n'appartient à personne. Comme je le disais finalement dans la partie précédente, l'homme est un sujet, au sens plein du terme. Il peut dire « je ». Cet homme peut dire « je », il peut dire du coup « je ne sais pas ». Il peut dire « je décide de me taire ». Il peut aussi prendre la parole pour faire connaître à l'Éternel, autrement dit, pour lui apporter son témoignage personnel. Contre toute attente, l'Éternel dit à Job, « Je te demanderai et tu me feras connaître. » Tu me feras connaître. Cela remet sérieusement en question l'omniscience divine. Et cela remet sérieusement en question l'incapacité de l'homme à pouvoir dire quoi que ce soit. Simplement, son champ de connaissance doit être remis à sa juste place. L'homme peut apporter son témoignage personnel, ce qu'il sait sur lui, ce qu'il sait de lui-même. Il peut donc protester. Ouf ! Nous ne sommes pas condamnés au néant. Alors, sans aller jusqu'à dire que ce passage biblique instaure l'ère du protestantisme, disons qu'il autorise une spiritualité qui met l'accent sur la liberté individuelle. Il suscite une manière d'être croyant qui ne met pas ses convictions dans sa poche, mais qui, à la limite, les met en bandoulière autour de ses reins, et qui ne se contente pas d'annoncer ce qui s'est toujours dit. Car au point de cette histoire, Job n'aura pas été le croyant sans aspérité, qui aurait caressé la divinité dans le sens du sacré. Job s'est révolté, et bien révolté. Il a demandé des comptes. Il s'est dressé contre ce qui lui semblait être injuste. Il s'est dressé contre Dieu. Il n'a rien accepté aveuglément. Il n'a pas pris le discours de ses amis ou soi-disant amis pour argent comptant. Et dans quelques versets, on apprendra du rédacteur que c'est Job qui a bien parlé, qui a bien agi, et non ses amis. Certes, il est des aspects où il convient de faire preuve d'humilité et de renoncer à son désir d'omniscience. Mais cela n'implique pas le mutisme total. D'ailleurs, Job reprendra la parole sur le conseil de Dieu lui-même qui envisage de l'interroger, disais-je. La parole de Job est donc attendue par Dieu lui-même. Comprenons que notre parole est attendue, qu'elle est déterminante dans un monde où il y a beaucoup trop d'amis de Job. Beaucoup trop d'amis de Job dont le discours nous empoisonne et empoisonne le monde. La ceinture rappelle que nous avons une personnalité propre, une existence propre, une sorte de propriété privée qui doit être respectée. Cela implique que nous n'avons pas à nous laisser marcher sur les pieds, ni même à nous laisser impressionner par ceux qui prétendraient posséder la vérité sur tout, parce que ceux-là sont des imposteurs. Ceux qui prétendent savoir précisément qui est Dieu sans ne plus avoir à s'interroger sur ce que Dieu désigne sont des imposteurs. Ceux qui prétendent savoir ce qu'est une vie bonne, et en particulier pour les autres, sont des imposteurs. Ceux qui prétendent savoir quel est le programme économique qui résoudra tous nos problèmes sont des imposteurs. Ceux qui prétendent savoir précisément quel est le chemin de votre salut, étape par étape, sont des imposteurs. Mais ceux qui ne répondent pas aux sollicitations de la vie, ceux qui n'offrent rien à penser quand la vie nous interroge, lorsqu'elle a besoin de notre parole, de notre conviction, de notre confiance, de notre oui ou de notre non, ne rendent pas un plus grand service. Ils laissent toute la place aux amis de Job, ils laissent toute la place aux imposteurs, ils laissent toute la place à ceux qui trahissent la vie et imposent leur idéologie qui leur tient lieu de Dieu. Comme le disait le pasteur Alphonse Maillot au sujet de ce texte, l'homme qui cherche, même s'il se trompe, même s'il blasphème, même s'il prend Dieu pour ce qu'il n'est pas, lui est plus sympathique, plus proche que l'homme qui sait tout, plus proche que le théologien assuré et rassasié de vérité. Et il ajoutait, « Dieu a beaucoup moins peur des hérétiques ou des révoltés que l'Église. » Merci pour ce passage du livre de Job. C'est finalement un passage qui nous engage sur une méditation personnelle bien plus importante que ce que cette prédication ne fait malheureusement qu'effleurer. Il interroge nos sciences, il interroge nos idéologies, il interroge notre rapport à la vérité et notre rapport aux autres. Il interroge notre rapport au réel. Et loin de disqualifier nos recherches, il nous encourage à ne jamais mettre un terme à notre quête de la connaissance, pourvu qu'elle ne se fiche pas en un savoir définitif, mais qu'elle soit une manière de nous rendre toujours mieux responsables devant l'Éternel et devant la vie, qui, elle, ne s'arrête pas chemin faisant. Amen.